Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, bien sûr sur RFI. Et comme nous sommes vendredi, eh bien, nous sommes dans notre café des sports hebdomadaire avec nos débatteurs qui sont déjà là, bien sûr. Rémi Ngono, Xavier Barré, bonjour messieurs.
Bonjour à tous les auditeurs et surtout pour mon absence de la semaine dernière.
Vous vous excusez Rémi, j'espère.
Je m'excuse totalement, la voix était totalement enrhumée, puis il fallait pas que je vienne cracher.
Non mais en plus c'est que Xavier n'était pas là non plus. On s'est demandé si c'était pas un complot contre le café des sports.
Moi, j'avais une bonne raison.
Mais Rémi aussi, il n'avait plus de voix. C'est déjà une excellente raison. Il y a aussi Bruno Salomon aujourd'hui. Bonjour Bruno.
Salut Annie, bonsoir à toutes et à tous.
Et puis le réfé, bien sûr, incontournable, en tenue déjà de week-end. Bonjour Alejandro Valente.
Oui. Bonjour et un bonjour au coiffeur de Rémi Ngono qui a fait un bon travail. Vous pouvez voir sur le site les nouveaux looks de Rémi Ngono.
C'est bien rafraîchi sur les côtés.
Ah, vous en faites pas, c'est le nouveau look de 2019.
Ouais. Vous allez inspirer, vous allez être comme les joueurs de foot, vous allez inspirer des auditeurs.
Ah ouais.
Dans les débats du jour, il se passe toujours quelque chose à Monaco. Des arrivées, des départs, des défaites en série, des chèques aussi, des gros chèques. Et puis des démêlés avec la justice et même une mise en examen du propriétaire russe. Dernier rebondissement au pluriel, l'éviction de Thierry Henry et le retour de Leonardo Jardim. Un drôle de feuilleton alors qu'il reste 17 journées au club pour éviter la relégation. Il y aura donc d'autres épisodes. Le PSG tient-il enfin son numéro 6? Serait-ce Leandro Paredes? Mais qui est-ce Paredes? Qui est cet Argentin du Zénith Saint-Pétersbourg? Si peu connu mais qui coûte si cher. Espérons en tout cas qu'il n'allongera pas la liste des milieux de terrain recrutés en vain par le PSG. Luis Suarez dans le top 5 des buteurs historiques du FC Barcelone. Le pistolero uruguayen a inscrit 167 buts en 223 matchs. Le Blaugrana ne désarme pas. Sergio Ramos non plus d'ailleurs. Le défenseur et capitaine du Real Madrid a déjà inscrit une dizaine de buts cette saison. Le merengue est à 101 buts dans sa carrière. C'est le menu du jour. Les débats sont ouverts.
À sa nomination en remplacement de Leonardo Jardim mi-octobre, Thierry Henry incarnait, en tant qu'ancien du club, l'espoir monégasque d'arracher le maintien.
T'était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement?
Écoute, réponds-moi, Stéphane.
Stéphane, je n'ai pas peur de te le dire en face. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que je ne pouvais pas agir autrement que tel que je l'ai fait. Tu me comprends?
À l'heure du bilan, les chiffres sont cruels. En 20 matchs, le Monaco version Henry n'a gagné qu'à 5 reprises pour 11 défaites.
C'était donc ça. Ouais.
Je suis en train de lire un livre sur le licenciement. Je suis au chapitre 2 et j'ai déjà tout compris.
Dire que tu es encore mon ami, il y a juste avant le PCR de midi. Ne me dis pas des choses pareilles. Je suis ton ami et je tiens à le rester comme tel.
Non, c'est trop tard, Stephen.
Le mariage d'Antoine Grenier et des feux de l'amour mis en onde par Julien Magoharou. Voilà, ça vous a bien fait rire. À Monaco, effectivement, les feuilletons étaient plutôt cantonnés au palais princier, au rythme de la vie des membres de la famille Grimaldi, leurs amours, leurs mariages et enterrements, comme donc dans les feux de l'amour. Mais hier soir, le feuilleton avait pour épicentre Louis II, le stade et les événements qui se sont accélérés. La star d'Arsenal, le champion du monde 98, actuel entraîneur de Monaco, était suspendu par la direction du club, Thierry Henry bien sûr, et qui quelques heures après annonçait le retour du portugais Leonardo Jardim, viré il y a un peu plus de 3 mois. Alors avant d'évoquer les raisons qui ont abouti au renvoi de Thierry Henry, assez facile à cerner, sans doute, arrêtons-nous sur ce chassé-croisé du jamais vu dans le football français, en tout cas qu'il nous en souvienne, Xavier Barré.
Aussi, il y a eu quelques petits épisodes comme ça par le passé.
On rappelle sur la même saison le même entraîneur.
Alors sur la même saison, sur
parce qu'on a d'autres exemples effectivement, mais sur la même saison.
Souvent, l'entraîneur est revenu assez peu de temps après. Mmh. Je me demande si c'était pas arrivé d'ailleurs à Gérard Rouillet.
Dernièrement, Guingamp. deux saisons avec Comboiré, et c'est l'ancien entraîneur que Comboiré a remplacé.
Oui.
Voilà, mais c'est pas sur le même.
Voilà. Non, il oui. y a du temps qui a passé. Temps.
Mais Gourvenec qui est revenu à Guingamp à,
vous
après
le dites,
deux
saisons.
Mm-hmm. Effectivement.
Oui, oui. Il y a des confrères ont trouvé des précédents assez récents, mais alors c'est en Italie. Et en plus, c'est en Sicile et en Sardaigne. Donc, voilà. À Palerme, sur la saison 2015-2016. Et, c'était avec un Giuseppe Iacchini, renvoyé, rappelé, qui finit par démissionner. Pareil à Cagliari, à Noël 2014, un Tchèque, Zeman, viré, qui revient et qui finit donc par démissionner. Mais quand même, Alejandro, se chasser croisé, c'est quand même assez étonnant, même si on voit bien que c'est chaque jour pire pour Monaco.
Oui, mais je pense que c'est la conséquence d'une dynamique dans laquelle on ne vire pas pour les bonnes raisons et on ne recrute pas pour les bonnes raisons. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à ces micmacs. Je pense que Leonardo Jardim est parti en octobre sans que Monaco assume totalement ce choix, car on savait à quel point Leonardo Jardim avait épousé la politique parfois erratique du club en matière de recrutement et des transferts. Il avait réussi quand même à bâtir quelque chose et il a été licencié alors que la situation était loin d'être désespérée pour Monaco. Et on a fait venir Thierry Henry plutôt dans une logique des com, pour marquer un coup, alors qu'on savait Thierry Henry assez peu expérimenté et peu à même peut-être d'avoir l'humilité de mettre les mains dans les cambouis pour essayer de rebâtir une équipe désireuse d'aller de l'avant, quoi.
Mais Bruno,
on va juste rappeler avant que, on va dire, ce bateau tangue du côté de Monaco, Vassiliev et Jardim, c'est un binôme extraordinaire. C'est-à-dire, d'un côté, t'as un président, on lui a donné une feuille de route, c'est tu achètes, tu vends, et de l'autre, tu as son entraîneur qui, à chaque fois, accepte. Tous les ans, oui, oui, les meilleurs joueurs partent, pas de problème. Et en fait, ça marchait, ce binôme marchait. Là, tu mets un jeune entraîneur qui n'a pas d'expérience, qui, effectivement, est assez égocentré, et à première vue, le premier contact avec le vestiaire a été un peu particulier, et bilan des opérations, en moins de 3 mois, la sauce n'a pas prise. Moi, franchement, Jardim, je pense que c'est à peu près le seul entraîneur qui est capable de travailler avec les Russes. Le problème, c'est qu'il y a eu un moment, ils se sont plus trop compris sur les 3 derniers, 4 derniers mois en début de saison. Mm-hmm. Voilà. Là, ce qui est génial, c'est qu'il est parti. Il a pris un énorme chèque et on lui a refait son
d'euros.
Équipe.
Mm.
Là, maintenant, il a une nouvelle équipe. il arrive, il a Fabregas, alors qu'il demandait à chaque fois des joueurs. Là, cette fois-ci, il a tout ce qu'il lui faut. Moi, franchement, maintenant, au Monaco, tu peux mettre une pièce dessus.
Xavier, finalement, qu'est-ce qui est le plus surprenant? La manière dont on ose dire au revoir à Thierry Henry, qui est la star qu'on sait des terrains, en tout cas, ou est-ce que c'est le retour de Jardim qui vous surprend le plus dans ce feuilleton?
Non, moi, clairement, c'est le départ de Thierry Henry. Parce que autant le retour de Jardim, bon, Bruno l'a très bien expliqué, il était parti mais pas vraiment chassé, bon, il y avait des malentendus qui traînaient, autant l'arrivée de Thierry Henry avait été mise en scène, elle aurait fait le rappeler, c'était de la communication, il est là, il arrive, il compose son staff, un staff international, il fait venir les meilleurs spécialistes de partout, sauf des spécialistes de Ligue 1, c'est pour ça qu'on a vite parachuté ensuite Franck Passy, il est là, il fait son show lors d'une conférence de presse qui était d'ailleurs un peu rébarbative, enfin bon, et donc on était tous très attentifs parce que de cette génération-là, il y a Zidane qui avait réussi avec 3 Ligues des Champions avec le Real Madrid.
Vieira,
il y a Deschamps, Patrick Vieira à côté à Nice et Didier Deschamps champion du monde avec les Bleus. Donc du coup, on se dit bon bah Thierry Henry, voilà, il est dans la bonne, c'est le bon moment et en
la
plus
bonne dynamique.
On connaissait sa passion du football, on connaissait ses compétences, j'allais dire théoriques. Puisqu'il avait eu ses diplômes, il avait été un très bon consultant sur une chaîne de télé anglaise, grassement payé d'ailleurs. Donc on était curieux de le voir à l'œuvre, avec les réserves qu'on a pu déjà évoquer. Mais à l'arrivée, c'est un cuisant échec, et c'est un échec qui se solde par un renvoi brutal, assez surprenant.
Xavier, quand tu fais la liste des personnes que tu viens de citer, d'un côté tu as Zinedine Zidane, qui a appris avec Carlo Ancelotti, qui a été adjoint, qui a écouté, regardé. De l'autre, tu as Patrick Vieira, qui s'est occupé du centre de formation de Manchester City, qui est allé en MLS et qui après arrive du côté de Nice. Et là, tu as un entraîneur qui, tel un gros chat, a regardé.
Non, puis Deschamps aussi. Deschamps qui est passé par plein,
voilà,
de clubs.
Deschamps,
et l'aventure l'OM a dû lui apprendre plein de choses.
Hein. Et là, tu as quelqu'un qui, non, Aston Villa, pas assez bien pour moi. Non,
Bordeaux,
pas assez bien pour moi. ok, d'accord, j'y vais pour Monaco. C'est terrible ce qui s'est passé hier. Franchement, pour son ego, hier, il fait une conférence de presse pour annoncer qu'il a fait le ménage dans son vestiaire.
On va y venir.
Qu'il va dégommer une partie de son vestiaire. Et
venir,
juste une heure
Bruno.
Plus tard, dehors.
Rémi, pour vous, qu'est-ce qui est surprenant? Est-ce que d'abord, ça vous surprend tout ce qui se passe finalement du côté du Rocher? On va dire depuis le début de la saison, où il se passe toujours quelque chose.
Au tribunal de Rémi Ngono comme président, j'acquitte immédiatement Thierry Henry et je mets rapidement ces irresponsables de Monaco en prison. Je devrais quand même dire, pour ceux qui veulent nous faire, il y a beaucoup de gens qui font le procès de l'inexpérience de Thierry Henry. Je devrais dire que même auprès de Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane n'a pas appris grand-chose parce qu'il n'a pas passé là deux ans.
Thierry Henry a témoigné de ce qu'il avait appris avec lui.
Lui aussi, il a appris en Belgique. De toutes les façons, la Belgique arrive.
Il s'est occupé de la réserve de
Attendez.
Laissez finir Rémi Ngono, il va nous dire.
Ah oui, vous avez eu deux interventions. À peine, j'ai pas commencé.
Il regarde le nombre d'interventions. Monsieur le Président.
Bon, et puis, ce que je constate quand même, c'est que on me parle d'inexpérience. Mais rappelez-vous que lorsqu'on vire Ranieri, Ranieri se retrouve dans la même situation. Mais quand Ranieri arrive en Angleterre, effectivement, il devient champion d'Angleterre avec Leicester.
Enfin, Ranieri, c'était donc, pas un débutant, Rémi.
Donc, pour vous dire que même ayant son expérience, il n'a pas réussi à Monaco. Et quand d'ailleurs, celui qu'on appelle aujourd'hui, Jardim, que c'est lui seul qui peut réussir avec Monaco, je devrais dire que quand il arrive dans une équipe de Monaco, qui bien évidemment est aussi en décomposition, lui-même il échoue, puisque les quatre premières journées, il n'a qu'une victoire. Et il se retrouve avec, comme dire, il est 15e avec 4 points. Ouais. Donc, pour vous dire que dans une équipe où vous arrivez, où tout est brinque-ballant, où il n'y a pas d'organisation, vous la prenez au milieu de la saison, alors que Jardim, qui pourtant venait d'avoir cette équipe, lui-même n'a pas pu la reconstruire. Vous auriez voulu que ce soit, par exemple, comme j'entendais au niveau des écrits bibliques, comme Jésus qui disait que je détruis le temple et je le reconstruis en 3 jours, sauf qu'il ne l'a pas fait. On attendait donc Jésus-Christ à Monaco, eh bien, Thierry Henry a été présenté comme Jésus-Christ, et le voilà crucifié, le voilà sacrifié, oui, donc, alors que Rémi, les vrais coupables sont là.
Rémi, le problème, c'est que Thierry Henry est arrivé, effectivement, peut-être qu'il a manqué juste, c'est un avis, sur ces 3 mois-là, un peu d'humilité, c'est-à-dire que dès qu'il a fait des conférences de presse, il a commencé à bastonner sur son...
Eh ben alors justement Bruno, parce que attachons-nous, alors maintenant surprenant, pas surprenant, ce chassé-croisé, attachons-nous effectivement aux raisons, et c'est vrai que hier il va en conférence de presse, et il est viré quelques heures après, donc c'est absolument terrible le scénario, mais écoutons ses derniers propos, parce que vous y faisiez allusion, et c'est peut-être aussi ce qui a allumé la mèche.
On a resserré le groupe. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre des mecs qui ont envie de sauver le club et pas penser à leur futur. Oui, on fait le tri. Ouais. Nous, on part en guerre avec un groupe. Donc, comme vous avez pu le voir, on fait Dijon Guingamp tout de suite. Après, le plus important, c'est de sauver le club. Ça, c'est le plus important. J'ai dit après la conf de presse, mon futur, c'est pas un problème.
Est-ce que ce sont ces propos, Bruno, qui font déborder, on va dire, la coupe, ceux d'hier soir, mais il y en a eu tant et on en entendra tout à l'heure, ou est-ce qu'aussi on peut imaginer que les joueurs sont allés dire, nous, on n'admet plus?
Annie, c'est la résultante. Tu te retrouves avec
Non, mais on le laisse faire une conférence de presse l'après-midi.
On se retrouve avec un 5-1 contre Strasbourg. C'était déjà dans les tuyaux, il fallait juste la validation de Jardim. Je pense que le moment où Jardim a dit, bon allez, ok, j'y retourne, parce qu'ils se sont vus 2 jours avant ou 1 jour avant, ils ont mangé ensemble avec Jorge Mendes, avec Vassiliev. Voilà.
Et bien, hier soir.
Ouais, ils se sont vus avant.
Allez, ils ont dû se téléphoner.
Il vit là-bas.
Non, il était parti à Madère.
Quand on veut virer un entraîneur, alors qu'on a un match aussi important que celui contre Dijon qui approche, on aurait dû le virer en début de semaine et laisser un peu plus de temps à l'équipe qui le remplace pour le préparer. Donc je pense que la conférence de presse a peut-être précipité des choses qui étaient effectivement dans les tuyaux, mais qui n'étaient pas censées se passer avant le week-end.
Juste 40 joueurs professionnels, du côté de Monaco. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Comment tu veux gérer un vestiaire de 40 joueurs?
Il y a des équipes qui en ont plus encore.
Ouais, mais voilà, non, t'es sur le Rocher, il y a pas beaucoup de place sur le Rocher quand même.
Ça peut arriver maintenant.
Est-ce que les joueurs avaient lâché?
Bah clairement ils adhéraient pas, et c'est là où on voit les limites de la personnalité de Thierry Henry. C'est-à-dire que lui, toute sa carrière, il était avançant de buteur, et on sait que les buteurs sont un peu égoïstes, donc ils jouent pour eux. Et moi, j'ai eu le sentiment que Thierry Henry était pas encore devenu entraîneur. Hein, il était
on l'a
encore...
beaucoup dit, on en avait parlé lundi dans Radio Foot, justement, au lendemain de cette déroute face à Strasbourg.
Voilà, il était encore l'attraction de... Alors, logique compte tenu de ses états de service comme joueur, mais... il n'était pas encore vraiment devenu entraîneur et du coup on a le sentiment que les joueurs n'adhéraient pas forcément à l'ancien coéquipier qui était maintenant sur le banc, alors qu'ils auraient dû suivre un technicien, un coach capable de les mener.
Ce qui a été la chance de Zidane justement. Quand on parle de Zidane, on sait que Cristiano Ronaldo et les stars du Real étaient contentes d'avoir pour figure de proue cet entraîneur.
Sauf qu'au niveau du Real, il y avait les stars.
Mais
là
sûr,
à Monaco,
Rémi,
vous avez. Mais quand vous
non,
dites
mais Falcao,
que
Falcao, tout ça, c'est quand même des joueurs.
Quand vous dites non, mais Falcao n'a jamais été contre Henry, mais actuellement, le Falcao là ne peut pas être efficace dans la mesure où j'ai dit bien que le Falcao, rendez-vous compte, lorsque Falcao pouvait être un attaquant digne de ce nom, c'est quand il a joué aussi avec Mbappé. On sait très bien que c'est à cette période-là que
Monaco arrive à 107
points, c'est-à-dire que le troisième meilleur nombre de buts marqués. Donc aujourd'hui, lorsque vous regardez qui est-ce que Thierry Henry était en train d'indexer, il était en train de parler de Tielemans. Et bien sûr, Tielemans, vous allez le prendre pour s'imposer au milieu du terrain. Or, le milieu de terrain de Monaco, il faut se le dire, qu'est-ce qui faisait la force? Il y avait le duo, c'est-à-dire qu'il y avait, par exemple, Fabinho, qui était bel et bien là, et Bakayoko. C'est eux qui couvraient la défense. Maintenant, vous prenez un jeune homme. Vous prenez un jeune homme qui n'a pas ces couilles-là de pouvoir tenir une certaine couverture. Donc, et Thierry Henry lui demandait d'aller au charbon. Il me dit aujourd'hui que c'est une affaire d'attaquant et tout. Johan Cruyff, il a été attaquant, il a été un bon entraîneur. Ce n'est pas un problème d'attaquant. Le problème, c'est que l'effectif de Monaco aujourd'hui s'est réduit en peau de chagrin. L'effectif de Monaco ne peut pas valoir quelque chose. Oui, bien évidemment, parce que quand vous regardez par exemple que entre deux, oui, effectivement,
mais il y a encore
pas dire
cinq,
ça, on peut pas dire ça, Rémi Gonod, d'un effectif
qui a
non seulement la quantité, on l'a dit, 40 joueurs, mais aussi une qualité supérieure à la 18e place de la Ligue 1. Qu'ils aient pas été capables de bien figurer en Coupe d'Europe, je veux bien l'admettre, il y a eu effectivement un renouvellement important, le départ de cadre. Mais l'effectif de Monaco aujourd'hui, ça vaut plus que la relégation à la fin de cette saison.
19e
ça
place.
Vaut au moins le milieu de tableau. Et c'est ça le problème.
Quand Jardim partait. Quand Jardim partait. Jardim
était en phase de reconstruction.
Et Thierry Henry était en phase de quoi? Vous allez quand même
Thierry Henry en phase d'apprentissage pour lui-même. Et je pense que c'est cette étape qui lui a manqué.
Et n'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de blessés. Ça a été un facteur quand même très... qui a compliqué beaucoup les choses, aussi bien pour Jardim que pour Thierry Henry, qui est pourtant arrivé en connaissance de cause. Ils savaient qu'il y avait beaucoup de blessés, donc c'est quelque chose qui... Mais moi, ce qui m'a le plus choqué chez Thierry Henry, parce que les grands entraîneurs, en général, prennent le soin d'attirer sur eux la foudre, les critiques, les tensions, et de protéger leur groupe. Et à tout moment, j'ai entendu un Thierry Henry qui plutôt allumait les joueurs et essayait de dire « Moi, j'ai fait du bon travail, mais voilà. »
Eh bien, on va l'écouter justement, Thierry Henry, dans les propos qu'il a pu avoir ces trois derniers mois.
On s'était dit qu'on allait essayer de sortir de la zone rouge avant la trêve. C'est pas fait. Partir en vacances comme ça, pas terrible du tout. Moi personnellement, je vais pas passer de bonnes fêtes. À un moment donné, je sais pas si les mecs réalisent ce qui est en train de se passer. De dire que c'est pas possible, on va s'en sortir, ça marche pas comme ça. Il faut aller chercher, il faut le faire et arrêter de parler. Je l'ai dit la dernière fois, ça peut pas être pire. Eh ben, c'est pire parce que tu perds deux joueurs ce soir.
Voilà, un résumé, ça illustre très bien évidemment ce que vous disiez, Alejandro, c'est
mais
pour ça qu'on avait...
Ça ne vous étonne pas que Rémi Gonod prenne la défense de Thierry Henry qui prend comme ça. Il a fait la même chose avec José Mourinho.
Non mais
attendez Rémi.
Juste une chose, en fait, ce que je remarque, c'est que Thierry Henry a tiré beaucoup trop la lumière pour un club comme Monaco. Ce qu'on aime du côté de Monaco, c'est le côté Jardim. Tu perds avec Jardim,
enfin,
tu prends 7-0
en même temps.
Tu prends 7-0 au Parc des Princes. Tu prends 7-0 au Parc des Princes. J'en discutais avec un ami, Mathieu Faure, qui est journaliste à Nice Matin, qui suit Monaco, qui me dit tu prends 7-0, il se passe rien, personne va le dire. Là, par contre, 5-1, Strasbourg bat Monaco, et ben c'est le Monaco de Thierry Henry. C'est-à-dire que la lumière venait beaucoup trop sur le rocher, et finalement. Les Russes, les propriétaires russes, ça leur a pas plu. On préfère le gars qui va pas faire de bruit, on préfère le Jardim qui va faire son petit truc dans son coin, ou un entraîneur qui fera pas de vagues. Et Ranieri, s'il se fait secouer très rapidement, c'est qu'il se rende compte qu'en Ligue 2, déjà, il prend la lumière et il est beaucoup trop important par rapport à l'institution qui est Monaco.
Il est plus connu que Jardim,
voilà. Mais là,
c'est
en
sûr.
Tout cas, et là, tu regardes Thierry Henry. Écoutez les informations. Le Monaco de Thierry Henry a perdu. Le Monaco de Thierry Henry s'est fait éliminer. C'était beaucoup trop pour les propriétaires, monégasques.
Rémi, s'en remettra Thierry Henry, Rémi.
Très très bien, d'ailleurs. Je voulais juste
très
rappeler.
Très bien.
Je voulais dire à Xavier Barré qui m'a dit, bon écoutez, vous ne défendez pas ceci et cela. Moi je me souviens comment est-ce que Arsène Wenger a lui a cloué ses joueurs. Et d'ailleurs, je voulais tout de même rappeler la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé entre Chelsea, juste quand Chelsea perd, eh bien c'est Sarri qui se retrouve là. Je le prends par exemple, un grand entraîneur comme on dit, il a laminé chacun de ses joueurs disant qu'ils étaient incapables d'aller au front, incapables
ils
de
ont
pouvoir
gagné hier.
Et ils ont gagné enfin, mais quand c'est Thierry Henry, non, il ne fallait pas qu'il le dise.
Okay,
c'était pas
Rémi.
Ceci
Rémi,
moi j'ai dit aujourd'hui une seule chose, j'ai dit juste une chose aujourd'hui, c'est que lorsque vous regardez par exemple que ce soit avec Jardim, vous vous rendez compte que lorsqu'on continue à vendre des joueurs, il a été champion. Mais quand il a été champion, c'est quoi? C'est qu'il avait de bons joueurs de couloir, il avait un bon milieu de terrain, il avait de bons attaquants, dont Mbappé, avec qui pouvait servir
par
là.
Henry,
bon, et par la suite, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait, ils encaissaient moins, c'était 0,88 par match. Mais lui-même, la saison d'après, c'était déjà une catastrophe. Donc, à une certaine période, vous vendez. Et qu'est-ce que vous voulez? Il y a un proverbe africain qui dit, vous ne pouvez pas vendre tous les palmiers et avoir l'huile de palme.
Mais Rémi, ils ont acheté des joueurs, ils ont acheté ce que Thierry Henry voulait depuis le début. Là, il y a Fabregas, il y a Naldo, il y a tout ça.
Fabregas, il est mal. Hein. Je vous rappelle qu'il a juste signé pour Thierry Henry.
Mais exactement.
Il est venu pour le projet de Thierry Henry.
Et d'ailleurs, il y aura des discussions. Juste une dernière question. Est-ce que Leonardo Jardim, en revenant, peut sauver ce club de la 19e place et de la relégation?
Oui, parce que le championnat, enfin, je me permets de prendre, mais le championnat est tellement faible que vous avez Dijon, vous avez Amiens, vous avez Caen, et ils sont tous dans le même, voilà, même Guingamp peut se sauver. Et en fait, moi, je le dis, Guingamp et Monaco vont se sauver, et c'est des clubs comme Dijon et Amiens qui vont, je pense, ne pas tenir et qui vont se retrouver. Je pense que Monaco va s'en sortir.
Il peut même gagner la Coupe de la Ligue.
Oui, ouais. Tu t'imagines, tu peux gagner la Coupe de la Ligue, tu finis 17 ou 16e et tu sauves ta saison.
Leonardo Jardim est sûrement l'homme de la situation. Pourquoi? Parce que il connaît ses joueurs. Il connaît bien la Ligue 1.
Mais il n'y arrivait pas au mois d'octobre l'année dernière.
Encore une fois, on le redit.
Ils n'ont pas gagné depuis le mois de mai l'année dernière.
Il y avait beaucoup de blessés.
Il y avait énormément de blessés et il n'y avait pas eu de renfort. Enfin, en tout cas, voilà. Donc là, il y a les joueurs qui reviennent de blessures et les renforts. On peut imaginer qu'il connaît parfaitement la situation, qu'il saura faire.
Rémi, Leonardo Jardim peut sauver Monaco.
C'est le Titanic qui est en train de couler, donc je ne sais pas si
l'iceberg est en vue.
Je ne sais pas s'il viendra avec du ciment ou alors avec du bitume pour essayer de mettre dans ce navire là qui va à volo. Donc pour l'instant, moi je sais très bien que s'il est parti avec un énorme chèque de 8 millions, et c'est parce que justement il n'était pas à la hauteur. Donc aujourd'hui, on me dit que subitement, il s'est transformé avec un coup de baguette magique. Je ne vois pas du tout.
Bon, en tout cas, cette semaine, il avait dit qu'il restera en Ligue 1 à 81% de chance. Il avait peut-être déjà une idée derrière la tête. Nous, on croyait, tout le monde l'envoyait, les rumeurs l'envoyaient vers Lyon, comme quoi. Il y a des moments où on ferait mieux de tourner cette fois notre langue dans notre bouche. En tout cas, une pensée pour Franck Passy, l'intérimaire malheureux, une nouvelle fois.
Qui est le numéro 1 ?
Vous êtes le numéro 6.
Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
Qui a reconnu?
Ah bah le prisonnier.
Bravo Bruno, pourtant Xavier a l'air complètement.
C'est votre génération
perdu.
Les gars, c'est
oui,
pas la mienne.
Bon, donc ce numéro 6, eh bien... Est-ce le petit nouveau dans les rangs parisiens? Un milieu de terrain, en tout cas, vient d'arriver au PSG. Un Argentin formé à Buenos Aires, au grand, grand club de Boca Juniors. Et j'ai communiqué avec Carlos Bianchi peu avant l'émission, qui me disait que c'était lui qui lui avait fait jouer son premier match en première division argentine. Donc il a été lancé et il a un beau parrain pour ce qui est de sa carrière de professionnel. Il est passé par la Roma et il arrive du Zénith Saint-Pétersbourg. Alejandro, d'abord, dites-nous, qui est cet Argentin, vous le connaissez ?
Oui, oui, bah disons
que c'est...
On
parle beaucoup d'Argentins actuellement.
Bah disons que c'est un joueur qui nous fait penser que les promesses, des fois, il faut les tenir. Or, c'est l'éternelle promesse à Boca Juniors. On disait c'est l'héritier de Riquelme, on était fascinés, comme bien qu'il a fait démarrer, tout le monde promettait monts et merveilles. Et force est de reconnaître que les années ont passé et que ces promesses n'ont pas été totalement tenues. C'est un joueur... très irrégulier. D'ailleurs, l'équipe nationale d'Argentine n'a jamais vraiment ouvert ses portes à ce Paredes. Même l'équipe de moins de 20 ans, il avait été écarté parce que les sélectionneurs de l'époque estimaient qu'il était trop irrégulier. Il n'est pas allé à la Coupe du Monde. Beaucoup d'autres joueurs des caractéristiques similaires lui sont passés devant. Donc, un certain Giovanni Lo Celso, qui était au PSG en début de saison, qui joue au même poste que lui et qui est parti au Betis où il réussit une formidable saison. Et nous, on se retrouve avec Paredes qui est passé sans trop d'éclat à la Roma, ensuite au Zénith de Saint-Pétersbourg, qui a des qualités mais qui reste un joueur très irrégulier, très peu performant.
Bruno, est-ce le numéro 6 rêvé ? On parle de grand attaquant du côté de l'OM et à Paris, on parle souvent d'un numéro 6.
Déjà, il faut dire enfin. Enfin, ça fait un an et demi que le Paris Saint-Germain sait qu'il doit recruter un numéro 6, que Mota va arrêter, etc. Ils ne l'ont pas recruté.
Et il n'est pas numéro 6, voilà, on précise.
Il est passé numéro 6 quand il était à la Roma. Et après, derrière, effectivement, c'est pas forcément son poste. Là, il est actuellement à Doha. Il passe sa visite médicale et le contrat sera paraffé ou ce soir ou demain. Un contrat de 4 ans et demi. Je suis pas sûr que ce soit le premier choix, ni le deuxième choix, ni le troisième choix, mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. En revanche, j'aimerais bien comprendre le montage financier par rapport au fair play financier.
Autour parce de 45 que, millions,
voilà,
c'est ça?
Voilà, tu vends Giovanni Lo Celso tu fais un prêt avec option d'achat obligatoire si jamais tu te qualifies pour la Coupe d'Europe et tu vas récupérer à peine 25 millions d'euros. Ce qui est franchement, c'est une broutille par rapport au niveau de Giovanni Lo Celso. Tu vas prendre un joueur qui vaut 40 millions d'euros. J'aimerais encore comprendre ce que nous a fait Antero Henrique dans cette histoire. Et il y a un vrai problème au Paris Saint-Germain qui est le directeur sportif Antero Henrique. Son entraîneur lui dit dès le mois d'août, je veux un milieu de terrain. Il n'arrive pas avec un milieu de terrain le 31 août. Le 1er janvier au matin, normalement, si t'es un club normalement constitué, tu sais que ton entraîneur veut son numéro 6.
Il nous dit à chaque conférence de presse. Donc,
tu dois lui dire Joyeux Noël. On a trouvé ça sous le sapin à ton 1er janvier, tu l'as. Là, il aura fallu attendre le 25 janvier. Et encore, on n'est pas sur les profils
oui,
qui étaient voulus.
La chance de Paredes, c'est qu'il y a eu l'humiliation des Jong. Et évidemment, le PSG s'est fait
doubler
des Jong par Barcelone. Et il fallait trouver rapidement un effet d'annonce. Et voilà, c'est Paredes.
Rémi ?
C'est une navigation.
Paredes, ça veut dire mur, hein, Alejandro. Oui, hein, oui. C'est un vrai mur. Hein.
La pared. Un mur.
On verra.
Pared en espagnol.
Non, je vais vous dire, dans une composition d'équipe, il y a toujours ce que l'on appelle le toit. C'est-à-dire que le toit au niveau de... C'est-à-dire que devant la défense. Bon, alors, vous me dites ce Paredes-là qui est en fait une toile d'araignée qui arrive devant
ça.
Une défense du Paris Saint-Germain.
Je dis pas Paredes, mur en espagnol.
Donc, moi, je ne vois pas parce que c'est une longue navigation à vue. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez compte quand même que ces gars-là se sont retrouvés à nous présenter un certain Krikoviak qui était venu quand même avec Emery.
Oui, non, mais ils en ont empilé pas mal au milieu de terrain.
Ah, je peux faire la liste. Hein.
Vous aviez un Thiago Motta, tout le monde le voyait vieillissant. Mais vous le laissez quand même partir à Matuidi.
Parce qu'il était le meilleur quand même.
Matuidi pouvait quand même jouer de bons rôles au niveau du milieu de terrain. Parce qu'il faut se dire que c'est tout le milieu de terrain. Oui. D'ailleurs, avec lorsque vous regardez l'autre petit bonhomme qui fait le zinzin là au milieu de terrain, qui se blesse tout le temps et que je ne voudrais pas citer.
Verratti.
Donc tout le temps, il est blessé. Il passe son temps dans l'infirmerie. Et après, vous prenez Rabiot, vous dites
alors,
que bon,
donc,
il ne se porte pas bien, et ceci et cela, vous le mettez au niveau de la réserve.
Donc, c'est pas une bonne recrue.
Ah, attendez, c'est pas une recrue totalement, c'est encore un échec. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire là? Attends, il y a un proverbe africain qui dit que ce n'est pas parce que vous prenez un chaton, vous le mettez au milieu du tigre, qu'il va devenir un tigre. Paredes, aujourd'hui, c'est un chaton, point.
Non, mais Bruno l'a très bien dit, c'est un troisième ou quatrième choix. On voit bien, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à avoir les
c'est
pointures
cher
qu'ils
pour
veulent.
Un quatrième choix.
Ah, oui, mais bon, après, c'est aussi.
Oui, le Paris Saint-Germain, on sait que la facture est toujours plus
voilà,
élevée.
Voilà, dès que le Paris Saint-Germain arrive.
Que le PSG allait chercher.
Et voilà, ils cherchaient et qu'ils ont de l'argent.
Donc du coup, bah, tout le monde fait tout de suite monter la facture, y compris le Zénith Saint-Pétersbourg, qui pourtant a de l'argent, hein, puisque c'est le club de Gazprom en Russie. Donc du coup, là, ils font une affaire, le Zénith, le PSG récupère un joueur, mais je pense pas que dans l'esprit des dirigeants parisiens, ce soit un joueur qui soit destiné à être titulaire. Ils ont besoin aujourd'hui d'un joueur pour jouer en Ligue 1. Pendant que Verratti, lui, se soigne pour les matchs de Ligue des Champions, et pendant
aussi pour remplacer Verratti quand il se blesse.
Oui, mais bon, Verratti...
Là, il y a un match le 12 quand même, Bruno.
Il revient toujours pour les grands matchs.
Là,
12 février,
il va être balancé dans le grand bain, il jouera pas contre Rennes, il va jouer contre Lyon, ça va être le premier match pour lequel il va jouer, donc déjà il va être observé, et on va regarder à peu près ce que ça donne, donc je laisse imaginer pas de niveau d'adaptation. Il se pourrait qu'avant le 31 janvier, le PSG en fasse un deuxième milieu de terrain. Gay, ou... Et alors, moi, je préférerais...
Gay, c'est 47 millions, attendez.
Ouais,
c'est impossible au niveau du montage financier.
Le PSG va tenter de vendre un garçon comme Nkunku, Rezé.
Ou Rabiot.
Mais Rabiot, de toute façon, alors, tu parlais tout à l'heure de Barcelone qui a fait un sale coup, mais il y en a un qui est dans le sale coup. Je te rappelle. Parce que là, De Jong, ils ont peut-être pris De Jong, mais maintenant, il y a un Rabiot qui pensait aller à Barcelone, qui va peut-être plus y aller.
Ouais. Les choses sont un peu refroidies.
C'est ça.
Tout subitement.
Mais par contre, ce que je voulais faire comme parallèle entre Paredes et justement Rabiot, c'est que Paredes est un numéro 8 qui va glisser en 6 et qu'il accepte. Rabiot est un numéro 8 qui ne veut pas aller en 6. Et quand tu parlais de Matuidi, ce qui est terrible avec l'histoire de Rabiot, je m'en parle quelques instants, c'est que Matuidi a été chassé. Très clairement chassé du PSG pour faire la place à un petit gars qui devait prendre toute la place, qui est troisième capitaine de Tourelle. Le gars crache à la tête de son entraîneur, de son club, et en plus, là, tu te dis, bah, on aurait mieux fait de garder Matuidi,
et de
le vendre le petit ailleurs. Bref, voilà. Mais en tout cas, Paredes est un choix par défaut, le choix de raison que voudrait le Paris Saint-Germain, mais par contre, le montage financier, je pense, est injouable. C'est pas Gay, c'est Alan de Naples.
Oui, mais
Alan également aujourd'hui compte terriblement et ça coûte aussi au-delà de 40 millions.
Non, mais aujourd'hui Ancelotti a dit qu'il ne libérerait pas Alan. Donc oublions.
Il a compris, Carlo, il sait.
Bon, en tout cas, on verra si cet homme se révèle être le numéro 6 ou le numéro 1 ou qui sait, un numéro.
Márquez de pesca, levantó Lionel, tapó el arquero Lucho. ¡Gol! Del Barça, gol de Suárez, querían gol de Suárez.
Deux buteurs de la Liga à l'honneur de notre Café des Sports et honneur à celui qui a inscrit hier soir un doublé, dont une superbe panenka, n'est-ce pas Rémi ? Sergio Ramos, le défenseur central du Real, l'homme qui a si souvent sauvé son équipe, l'aboyeur du dernier rempart, Sergio Ramos a inscrit donc 9 buts depuis le début de cette saison sous le maillot merengue, et il en a même inscrit en plus 3 sous le maillot de la Roja. Son entraîneur, en s'amusant un petit peu, Santiago Solari, a même dit, ah bien, ça y est, j'ai presque trouvé un numéro 9, même si son numéro 9, Benzema, a aussi marqué hier. Est-ce qu'il est dans un nouveau rôle? En plus, ça a pas dû vous échapper à vous, Rémi, il a commémorer son but à la manière de Cristiano Ronaldo. Je me trompe pas.
Ah oui, parce que, il faut se dire que...
Il lui a rendu hommage, son superbe but de la tête hier soir.
Ah oui, parce que, de toute façon, il faut déjà se dire que c'est le meilleur défenseur du monde, quoi qu'on dise. Parce que quand vous essayez de voir comment est-ce qu'il a progressé, comment il est constant au niveau du Real Madrid quand même, et les buts importants qu'il marque. Parce que, là, vous regardez, par exemple, que ce soit en Liga ou bien en Copa, mais vous vous rendez quand même compte qu'en Ligue des Champions, ça fait 11 buts qu'il a inscrits en Super Coupe d'Espagne, c'est 2 buts qu'il a inscrits, sans pour autant oublier la décima, la une décima, où il marque des buts juste pour sauver le Real, et qui donne quand même aussi la Ligue des Champions au niveau
Il a marqué pendant le Mondial des Clubs,
à la Super Coupe d'Europe. Toutes les compétitions, donc il n'existe pas un défenseur comme ça au monde, parce que
il a plus de 100 buts. On a trouvé 101, sachant que
il venait de Séville où il avait fait 3 saisons, 50 matchs, il n'avait marqué que 3 buts. Donc arrivé au Real, il a pris une autre dimension pire des saisons, il a inscrit en Liga 3 buts. Mais depuis une certaine période, on se rend compte que pendant que Benzema, Bale, Asensio, qui sont en attaque, font 1171 minutes sans marquer de but, c'est Sergio Ramos qui, lui, délivre cette équipe. C'est pour ça que ça nous a intéressés.
Il y a quand même un phénomène qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est le fait qu'il marque sur penalty. Et que cette saison, c'est lui qui tire les tirs au but. Cette recrudescence de Sergio Ramos goleador, ça s'explique parce qu'il tire les penalties depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Si c'était un autre joueur qui tirait les penalties,
2016-2017,
si c'était un autre joueur, il n'en marquerait forcément pas autant.
Non, mais on l'a toujours vu beaucoup marquer de la tête aussi.
Oui, Sergio Ramos, c'est pas seulement en plus. Ça, c'est une de ses qualités. Mais après, le fait qu'il tire les pénalties,
j'ai dit que sa meilleure saison, c'était en 2016-2017. 8 buts en Liga. J'ai dit bien 8 buts. Ouais. Ce qui signifie qu'il n'avait tiré aucun pénalty. Pour l'instant, il n'a pas atteint ça.
On peut les rater, les pénalties, quand même, Xavier.
On peut les rater, mais j'ai pas les statistiques sous les yeux. Mais il est arrivé aussi que Cristiano Ronaldo soit blessé ou suspendu. C'était le cas d'ailleurs en début de saison dernière. Donc Sergio Ramos a pu se retrouver avec des situations favorables. Mais c'est un très grand défenseur, on est d'accord. Même si, en finale de la Ligue des Champions, il a besoin de faire un Osotogari sur Mohamed Salah pour éliminer l'Égyptien et permettre à la victoire du Real Madrid sur Liverpool. Mais le fait qu'aujourd'hui il devienne buteur, c'est beaucoup lié à cette situation qui fait qu'il tire les pénaltys.
Avant que le FN vienne, je ne voudrais pas que vous veniez toujours avec ce côté, oui, il a fait cesser à Mohamed Salah. C'est ça, un grand défenseur. C'est-à-dire qu'empêcher à ce qu'on ait devant. Attendez, il ne l'a pas tué. Non. La preuve, c'est qu'il n'a pas eu même un carton jaune. C'est un grand défenseur. J'ai dit bien que ce soit défensivement ou offensivement, il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, je m'insurge. Lorsque je regarde les ballons, le joueur UEFA, mais je me rends compte que Modric a, par exemple, 313 points et Sergio Ramos est au niveau du 10e joueur européen avec 12 points. Ça, c'est injuste. Et quand vous parlez de son caractère, Sergio Ramos, quand un attaquant est devant lui, il se met à trembler parce que c'est un lion. Et quand il marque les buts, nous tous, nous sommes contents. Il y a un proverbe africain qui dit « Le miel est doux, mais l'abeille pique ».
Le problème, Rémi, c'est que ses coéquipiers sont aussi parfois très inquiets avec Sergio Ramos, parce qu'il a, comme le rappelait Xavier, des bien mauvaises habitudes, et il a déjà pris plus de 240 cartons jaunes dans sa carrière, 24 ou 25 cartons rouges, et évidemment, quand il prend ses cartons, il laisse son équipe diminuer.
Sauf qu'il n'a jamais mordu quelqu'un comme ton joueur qui mange les gens crus. C'est-à-dire que vous connaissez de qui est-ce que je parle. Luis Suarez. Attendez, laissez tout le monde avec carton jaune.
On parle de Sergio Ramos et
Bruno.
La finale de la Ligue des Champions, elle a été faussée par cette action.
C'est ça qui a donné le trophée au Barça. Au Real, vive Sergio Ramos. C'est ça qui te fait mal.
J'espère que nos auditeurs ont bien entendu. Il faudra pas ensuite que Rémy Ngono vienne parler de fair play.
C'est le joueur
qu'on aimerait avoir dans son équipe, mais qu'on déteste.
Voilà.
Je crois pas qu'il soit détesté, moi.
Moi, je vais vous dire un truc, ce qu'il a fait à Salah,
par son public,
Vous avez envie d'avoir un joueur de l'état d'esprit de Sergio Ramos. Moi, qui suis fan du Paris Saint-Germain, qui suis de PSG.
Il est moins assassin que Pépé, non?
Vous avez tous détesté Thiago Motta. Moi, j'ai adoré toutes les cartouches qu'il a mis à ses adversaires. Et pourtant, il a pris, mais c'est le joueur qu'on déteste. Mais par contre, il est l'âme d'année, pour moi, du Real Madrid. C'est-à-dire que le Real, c'est les merengues, ça joue bien en ballon, et puis derrière, il y a cette espèce de viking, cet homme tatoué, ce guerrier, non mais c'est vrai, qui est capable d'aller mettre des... qui casse un joueur, capable de casser un joueur avec un arbitre qui ne dit rien lors d'une finale de Ligue des Champions, et qui en plus a la morve de regarder l'Europe du foot et le monde du foot en leur disant « Et alors, j'ai gagné la Ligue des Champions par mon geste ». C'est... c'est un joueur qu'on déteste, mais par contre qui est terriblement important pour cette maison merengue. C'est lui, parce que là il tangue ce bateau merengue depuis le début de saison. Et ben lui il est là, et lui c'est, tu sais que tu peux compter sur lui, et ça se justifie par rapport au nombre de buts qu'il marque. Il est là et il tient encore la baraque. C'est pas tous ses coéquipiers qui peuvent en dire pareil.
Voilà pour ce qui est de, donc, du défenseur, du capitaine et maintenant un peu buteur.
Le Sergio Ramos. Barré en train de saluer. Si c'était moi, il n'allait pas le reconnaître.
Non, ça c'est sûr. Alejandro Valente, Luis Suarez, l'agressif pistolero, on parlait de gens qui mordent, qui avait tant de mordants jusqu'à son arrivée au Barça, il a incroyablement bien rempli sa mission. Il est là depuis 2014. Il a marqué 167 buts en 223 matchs.
Et oui, c'est quelqu'un
alors,
qui a...
Il est dans, pardon, il est le cinquième meilleur buteur dans l'histoire de ce club.
Bah déjà, c'est quelqu'un qui a su se rendre parfaitement complémentaire des Lionel Messi, et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il est plus que complémentaire, puisqu'ils sont amis, ils sont très liés, et ça crée une forme de solidarité qui est assez exemplaire. Mais oui, Luis Suarez, oui, c'est ce joueur qui est capable de dégoûter l'adversaire, de le perturber, parce qu'il est tout le temps dans le conflit, tout le temps dans la provocation, et c'est vrai que c'est le seul joueur à Barcelone qui joue pleinement ce rôle, et on l'a vu récemment par exemple face à Leganés, comment il a pourri la concentration du gardien de cette équipe pour faciliter la défaite alors que le match était compliqué. C'est un joueur qui arrive quand même à faire beaucoup de mal à l'adversaire par son comportement, mais aussi par son talent, parce qu'il marque des buts extraordinaires.
Il est ce qui manquait finalement à cette équipe de Barcelone, c'est-à-dire ce côté un peu, voilà,
l'école, bad boy.
Voilà le bad boy, l'école du beau jeu. Bon, je mettrais quand même Mascherano quand même. N'oublie pas quand même Refé, Mascherano, tu peux le mettre aussi dans les côtés un peu musclés.
Ramos de l'arrière. Mais Bruno, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est-à-dire il était arrivé avec ce geste qui avait enflammé évidemment le monde du foot parce que c'était une Coupe du Monde est déjà très filmée, mais finalement, je sais pas, ils ont peut-être payé des cours de psychologie, mais il n'est plus jamais sorti des clous au Barça.
C'est surtout que tu vois l'intelligence du garçon.
Ouais. Il disait que c'était son rêve d'arriver là.
Voilà, il était dans sa jeunesse, il est arrivé. Moi, c'est pas ce geste-là.
4 mois de suspension.
C'est pas ce geste-là que je retiens de lui, hein, en Coupe du Monde. Moi, c'est ce gars qui est capable de mettre la main sur une ligne, sur une ligne pour sauver un but, hein, pour sauver la nation. Hein. Ça veut tout dire d'un joueur. Ça veut tout dire d'un joueur.
En 2010.
Et en 2010, le gars est capable de mettre.
Faire des ennemis en Afrique.
Eh, je sais, je me suis désolé, mais
d'ailleurs,
c'est
les Africains n'ont jamais oublié
mais
ce geste.
Ça veut tout dire de la mentalité du gars, c'est qu'il ira jusqu'au bout pour son équipe, et il va jusqu'au bout avec le Barça. Et effectivement, quand tu vois cette équipe du beau jeu, quand il arrive, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font Barcelone? Qu'est-ce qu'ils vont prendre ce gars-là? Et finalement, il leur aura apporté ce qu'il leur manquait, c'est-à-dire un peu de sel, un peu de saleté, un peu de voilà, mais il en marque des buts, et maintenant cinquième meilleur buteur de l'histoire du club, mais c'est extraordinaire.
Ce qui est extraordinaire,
alors,
c'est
évidemment Messi. Hein.
Oui, c'est que il devient le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club en 4 ans à peine, un petit peu plus de 4 ans. Puis comme vous le rappeliez, il avait commencé son arrivée en 2014 seulement au mois d'octobre.
Exactement. On se souvient, il arrive pour le Classico. Hein,
oui,
c'était
exactement.
Incroyable.
Et donc du coup, en un peu plus de 4 ans, il réalise cette performance alors que celui qui l'égalise, Escola, l'avait fait en plus de 10 ans. Et tous ceux qui sont devant lui, à l'exception, y compris Messi d'ailleurs, ont réussi à marquer autant de buts, mais en une décennie, voire encore plus. Donc ça montre l'efficacité de ce garçon qui est un vrai chasseur de buts. Surtout, Bruno Salomon parlait d'intelligence, en tout cas son état d'esprit pour arriver à s'intégrer dans ce groupe, d'abord parce qu'il était copain avec Messi, et ça c'est important, et surtout parce qu'il a vraiment pris la place qui manquait au Barça, place qu'avait un temps essayé d'occuper Alexis Sanchez, mais pas avec la même réussite, c'est-à-dire cette espèce de premier rideau qui vient faire l'attaque, qui vient peser sur la défense adverse et qui permet à Messi juste derrière de s'exprimer, d'exploiter les failles et de marquer autant de buts.
Rémi,
sans aimer le personnage, mais je crois quand même qu'il est très important au niveau du Barça, et je devrais même souligner autre chose, c'est que il est le joueur que je trouve le plus décisif et le plus altruiste du Barça. Est-ce que vous rappelez quand même que un type comme Dani Alves, on le trouvait comme le meilleur passeur de Lionel Messi. Et d'ailleurs, Alves dépassait que ce soit Iniesta ou que ce soit encore Xavi. Mais lorsqu'on voit ce que Suarez a fait, Aujourd'hui, c'est lui le meilleur passeur de Messi. C'est-à-dire que tellement il a été altruiste, tellement il a porté le Barça à de longues périodes.
Lui comme, Neymar ont respecté la statue de Messi.
Oui, Messi lui rend bien, parce qu'il fait aussi beaucoup de passes.
De surcroît, il fait beaucoup plus mal à la défense parce que c'est lui qui fixe la défense, crée des espaces pour Messi où il s'engouffre. Parce que vraiment.
Complémentaire.
Voilà, c'est comme ça.
Il a bien rempli son rôle et le voilà donc dans l'histoire de ce club Blaugrana.
Carton jaune.
Un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Pour terminer cette émission, une session carton un peu particulière, des cartons vert et jaune aujourd'hui comme les couleurs de Nantes et même un carton bleu comme la couleur qu'Emiliano Sala, ce buteur argentin de 28 ans, aurait dû porter en passant du FC Nantes à Cardiff City, mais l'avion qui le transportait lundi soir a disparu et les recherches ont été arrêtées hier après-midi. À qui dans ce cadre, Rémi, quel carton aimeriez-vous mettre et surtout à qui ?
Moi, dans cette affaire, j'aimerais donner un carton vert à N'Golo Kanté et un jaune, bien évidemment, aux dirigeants de que ce soit Monaco de l'autre côté de Cardiff et qui ont quand même eu à ne pas...
Monaco
voilà, à Nantes, voulais-je dire, qui n'ont pas pu, ne serait-ce que... encourager financièrement ces recherches. Et quand je vois que c'est N'Golo Kanté qui se lève, qui dit, selon ce que le Times nous révèle, que N'Golo Kanté a accepté financer, ne serait-ce que les recherches, a proposé financer cela, c'est quelqu'un qui a un large cœur.
Il a proposé de financer la reprise des recherches.
La reprise des recherches, c'est totalement merveilleux. Et comme le dit un proverbe africain, les riches ont un coffre fort gros, mais les pauvres ont un cœur plus large.
Bruno ?
Moi, c'est en fait, c'est assez fou parce que cette histoire, elle nous marque tous parce que c'est l'histoire de ce guerrier, alors un peu gauche, pas très bon des deux pieds, mais qui avait l'impression de jouer toute sa vie sur une rencontre pour l'avoir vu quand il jouait en Ligue 2, quand il jouait à Caen, voilà, il avait cette rage. On sentait d'où il venait en fait. Rien qu'avec son attitude sur le terrain, on sentait d'où il venait. Et c'est pour ça en fait que quand on voit sur Internet les gens qui disent oui, il faut pas arrêter parce que ça se trouve, il est peut-être encore en vie. On a compris malheureusement l'issue de cette histoire fatale et fatidique pour Emiliano Sala, mais en fait dans le subconscient des gens, Sala est un guerrier, Sala ne lâche jamais et donc on ne lâche pas, on ne doit pas lâcher. Donc voilà, moi c'est l'image que j'ai envie de garder d'Emiliano Sala.
Ouais, c'est exactement Xavier. Ce que me disait Fousseni Diawara quand on commentait ensemble un match de Coupe de France ce mardi à Andrézieux. Il me disait oh, il va peut-être s'en sortir parce qu'on savait, ça faisait que 24 heures qu'il avait disparu. Il disait, c'est un tel guerrier que s'il a pu s'accrocher à un rocher, il va s'en sortir. Et lui qui était défenseur et qui l'avait affronté, il disait, j'ai rarement rencontré un type comme ça, qui est aussi bagarreur, qui renonce jamais. Il était pas très adroit, effectivement. Moi, supporter de Nantes, j'ai souvent pesté contre ses ratés, ses mauvais contrôles. Mais il avait une telle présence, une telle rage qu'on pouvait que l'admirer. Et forcément, aujourd'hui, en tant que supporter des Canaries, on est très triste.
Alejandro?
Moi, j'ai mettrai en avant le fait que en Argentine où il était très peu connu parce qu'il était parti très jeune, il y a eu un énorme élan de solidarité autour de cette famille humble et complètement sonnée par la nouvelle. On a entendu le père de Salah qui est chauffeur routier qui venait d'être prévenu par un ami et qui était complètement dépassé. On a entendu sa sœur qui est allée à Cardiff pour encourager les recherches et voilà, donc l'Argentine s'est mobilisée quand même pour cet enfant.
Et Radio Foot, eh bien, distingue un dessin qui est paru sur les réseaux sociaux. Très joli dessin où on voit Salah portant le pilote et arrivant sur une plage de Guernesey. Effectivement, quelqu'un a mis « J'imagine qu'il arriverait et qu'il dirait un garde-côte. J'ai le nez cassé, mais je joue samedi. »
C'est un peu ça, c'est lui.
Au revoir Emiliano Salah, adios. Et merci à tous pour ce Café des Sports très animé. Merci aussi à Julien Maguaro et à Pierre Guérin. Et à lundi.